au niveau de l'État, de l'Europe, des industries, peuvent nous aider à construire. Pour répondre à ces questions, autour de la table et par téléphone, nous avons l'honneur d'accueillir Henri Sterdignac.
Bonjour.
Bonjour. Cofondateur des Économistes Atterrés. Vous êtes aussi directeur du département d'économie de la mondialisation de l'OFCE, en travaillant sur un certain nombre de secteurs, que ce soit la politique économique européenne, la mondialisation, la macroéconomie, tous ces vecteurs qui vont nous permettre de donner une vision sur notre problématique du soir. Et puis Pascal Pavageau, secrétaire confédéral du syndicat Force Ouvrière, en charge des questions économiques. Comme toutes les précédentes émissions, vous pourrez télécharger celle de ce soir sur le site internet de la Fondation Copernic ou la réécouter mercredi prochain à votre petit réveil à 7h30.
On va poser une première question à Henri Sterdignac pour essayer de comprendre un peu le phénomène de la désindustrialisation en France et surtout son ampleur. Comment vous pouvez nous expliquer un petit peu l'ampleur pour commencer de ce phénomène qui a débuté dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, où le poids de l'industrie dans l'économie française a...
Oui, le poids de l'industrie dans l'industrie française est passé de, grosso modo, 25 à 12%. Il y a plusieurs phénomènes qui se sont ajoutés. D'abord, il y a un phénomène structurel qui est que, au cours du temps, les gens... consomme de moins en moins de produits industriels et de plus en plus de services. Donc ça, c'est un phénomène de long terme. On a un second phénomène qui est que l'industrie est de plus en plus productive et donc il faut de moins en moins de personnes pour produire. Et bon, donc ça, on a deux phénomènes qui sont assez normaux. Et puis se rajoute à ça... La concurrence que nous font les pays à bas salaire, et en particulier la Chine. Donc la Chine est petit à petit devenue l'usine du monde.
Voilà,
et elle a mangé un certain nombre de secteurs économiques qui ont pratiquement disparu en France. En particulier le jouet, le textile,
l'électronique
grand public... Et puis, dernier élément, les entreprises françaises, un certain nombre d'entreprises françaises ont choisi de délocaliser, d'investir plutôt dans les pays émergents plutôt qu'en France. Donc, ce déplacement de l'industrie vers les pays d'Asie, c'est à la fois un phénomène chinois, mais c'est aussi un phénomène d'entreprises françaises qui choisissent de produire là-bas. Soit les entreprises françaises, soit des distributeurs qui distribuent des produits chinois plutôt que des produits français. Et puis, dans la période récente, il y a eu la concurrence que nous fait l'Allemagne. Depuis 2000, l'Allemagne est devenue extrêmement compétitive. L'Allemagne a fait pression sur ses salaires. Et donc, la France s'est trouvée prise dans un étau entre la Chine... qui nous prend les industries bas de gamme et puis l'Allemagne qui est très compétitive dans les industries, dans un certain nombre d'industries, l'agroalimentaire et puis les industries haut de gamme. Tout ça fait que l'industrie française se porte mal.
Pascal Pavageau, vous êtes au téléphone avec nous ?
Allô, oui, bonjour.
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 Quelle est un peu vous votre vision en tant que représentant de Force Ouvrière, de la désindustrialisation, comment vous avez pu voir évoluer les choses depuis 20-30 ans?
Le constat que vient de rappeler Henri Sterdignac a été vécu par tout le monde, donc ça il est effectivement clairement avéré. Je crois que les raisons qu'il vient de rappeler, qu'il vient d'exposer sont aussi des éléments que nous connaissons et que on subit, y compris ensuite sur un plan, on va dire, politique et social, c'est-à-dire à la fois la question de la baisse effrénée du soi-disant coût du travail pour être compétitif, et puis toutes les conséquences que ça a en termes de mondialisation déréglementée, dérégulée, y compris sur le plan social, où on cherche toujours à faire travailler et produire au niveau industriel, des gens qui gagnent le moins possible et travaillent le plus possible pour en arriver à des choses absolument abominables, type le Bangladesh sur les textiles, voire, on le sait, dans le monde, le travail des enfants en toute illégalité. Sur le diagnostic français, il y a un élément qui nous semble être important aussi sur les conséquences, ou du moins sur le laisser aller de la désindustrialisation, c'est que les pouvoirs publics, entre les années 70 finalement milieu des années 90, voire début des années 2000, se sont totalement désintéressés de l'industrie. C'est-à-dire que, certes, ça a été des stratégies de compétitivité et de recherche du bas coût en matière de dumping social, quoi, finalement, et de dumping salarial, mais ça a été aussi, en France, à un moment donné, une sorte d'abandon de grands projets, de grandes stratégies de maintien industriel telles qu'on avait pu les voir l'après-guerre jusque dans les années 70. À la limite, je dirais que l'un des exemples phares de ces politiques industrielles, ça a été par exemple les politiques énergétiques et politiques par exemple dans le domaine du nucléaire. Dans les années 70, on n'a plus ces grandes politiques publiques industrielles d'une part, et on a tout ça pour commencer à faire des recherches en économie, une suppression et une baisse de l'ingénierie publique, de la recherche publique et de l'innovation publique, qui fait que, y compris sur le plan industriel, nos grandes entreprises ne récupèrent plus ce que l'État ou la recherche publique en amont arrivait à faire pour leur permettre de rester, pour le coup, compétitifs à l'extérieur. Je pense par exemple à un exemple qui est assez connu dans le domaine routier. Si aujourd'hui on a notamment les entreprises qui sont finalement parmi les meilleures, si ce n'est les meilleures dans le domaine de la construction des routes, c'est notamment parce que les services publics, et le CETRA en particulier, des années 45 jusque dans les années 75, ont fait des recherches fondamentales pour aboutir à des structures, des enrobés, etc., qui permettent à nos entreprises ensuite d'être extrêmement fortes et compétitives grâce à la recherche publique en amont. Donc je pense que par rapport à ce que disait Henri en introduction, sur l'aspect franco-français, il y a eu aussi un abandon des politiques publiques et des pouvoirs publics pour avoir un vrai maintien, un vrai dynamisme des grands projets industriels.
Monsieur Sterdignac, c'est une analyse que vous partagez ?
Il faut bien voir, il y a des problèmes européens, il y a des problèmes français. Hein. La France avait une tradition qu'on peut appeler colbertiste, selon lequel, effectivement, l'État lançait des grands projets qui marchaient ou qui marchaient pas. Hein. On a eu
TGV,
on a eu Airbus, on a eu
il y en a qui ont
le Concorde, on a eu le nucléaire. Et donc, c'était dans la caractéristique française. Hein. Il y a des pays où ce qui joue un rôle important, c'est les banques, les marchés financiers. Dans d'autres, c'est le marché financier. Dans d'autres, c'est un tissu familial, en particulier en Allemagne. La particularité française, c'était le rôle important que jouait l'État qui soutenait massivement des grands groupes. Et ces grands groupes étaient censés avoir un rôle de pilote et d'organisation du tissu industriel autour d'eux. Et puis, avec les privatisations qui sont survenues après 80, tout le tissu français, industriel français, a été fragilisé. Les entreprises ont été privatisées dans des conditions pas toujours satisfaisantes. Donc, ils n'ont pas pu se constituer en grands groupes capitalistiques. Et donc, on a eu des entreprises françaises fragiles qui n'ont pas réussi à impulser l'industrie française, qui ont eu une partie s'est vendue à l'étranger, a été plus ou moins dépecée, que ce soit Pechiney, Arcelor, etc. Et puis, une partie a choisi la facilité, c'est-à-dire d'aller produire massivement à l'étranger. C'est par exemple le cas de Renault. Et donc, tout ça, ça a fragilisé le système productif français où les grandes entreprises n'ont pas trouvé de mode de croissance, de modèle français de développement industriel. Et on paye ça aujourd'hui avec le problème que nos grandes entreprises sont extrêmement fragiles.
Pascal Pavageot, l'Union européenne en plus n'a pas pris le relais dans ses grands programmes français à l'échelle européenne. On a un déficit d'investissement public ou d'orientation.
Une des particularités de l'Union européenne, c'est qu'elle a fait jouer un rôle important au contrôle de la concurrence. Donc il y a une direction générale de la concurrence qui joue un rôle important et qui empêche. Qui essaye d'empêcher les subventions de l'État aux entreprises au nom de la concurrence libre et non faussée. Or, ce qui caractérisait la France, c'est précisément qu'on aidait les entreprises et donc, naturellement, la France a été fragilisée par l'idée qu'il fallait laisser les entreprises se débrouiller. Et ça pèse encore chez nous où, effectivement, l'État français, la France, ne peut pas aider spécifiquement l'industrie. Et donc, il faut trouver des artifices pour aider l'industrie. Et donc, c'est un élément de fragilité. L'Europe a fragilisé le système, le modèle français, qui était un modèle incompatible avec la concurrence libre et non faussée.
Pascal Pavageot, et votre point de vue sur...
Tout à fait, c'est vrai que là-dessus, cette politique effrénée du tout concurrence imposée par l'Europe conduit, ce que vient de rappeler Henri Sardignac, à savoir que, y compris les États, se sont désengagés encore plus qu'ils ne le faisaient en n'aidant pas leur propre industrie, mais... On voit avec des exemples, par exemple, réussis sur un plan industriel au niveau d'une politique européenne. Par exemple, le ADS. Aujourd'hui, Airbus, qui est finalement une coopération inter-État et une réussite industrielle à l'échelle européenne et plaçant sur des fleurons de l'industrie, en l'occurrence l'aéronautique, plaçant l'Europe en concurrence de l'ensemble du reste du monde. Et bien, aujourd'hui, on voudrait avoir... on voudrait avoir Airbus, l'Europe l'interdirait. C'est-à-dire, l'Europe ne s'autoriserait pas ce qu'elle a permis il y a quelques années, quelques décennies, au motif que ce tout concurrence ne cesse de croître et ne cesse d'évoluer. Ce qui est une aberration totale. C'est-à-dire que, on prend des exemples, par exemple, en matière photovoltaïque, en matière de démantèlement et de déconstruction des navires, il y aurait aujourd'hui des champs entiers sur lesquels une vraie politique européenne, industrielle, inter-État, permettant finalement le partenariat entre les États, la coopération entre les États pour avoir des grands groupes industriels type Airbus dans d'autres domaines. J'ai cité le domaine de la déconstruction navale ou par exemple le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque. Ben aujourd'hui, l'Europe elle-même, alors qu'elle a les capacités, qu'elle a le savoir-faire, qu'elle a les compétences, qu'elle a les moyens de le faire, qu'elle a la volonté des États de le faire, l'Europe ne le mettrait pas en place. On est passé sur le plan européen, on est passé d'une Europe qui était finalement CECA à une Europe qui est CECA, sauf que l'Europe CECA à l'époque finalement c'était une construction européenne du charbon et de l'acier, donc vraiment industrielle, coopération inter-État, à une commission européenne de la concurrence et de l'austérité. Et donc de ce point de vue-là, le CECA aujourd'hui interdit toute politique industrielle et de coopération inter-État, ce qui du coup État par État, a des impacts de désindustrialisation, avec en plus, finalement, cette logique de mise en concurrence aboutit à ce que disait Henri Sardignac tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est celui qui va avoir le coût du travail le moins élevé, donc qui paye le moins les salariés et qui a le moins de protection sociale, qui emportera le morceau parce qu'au bout du bout, il sera soi-disant moins cher. Ce qui est une aberration, y compris en termes de qualité, mais aussi, par exemple, en termes de bilan carbone ou de politique environnementale, parce que du coup, les lieux de production sont externalisés très loin de là où ils pourraient être utilisés en matière de production. Mais incontestablement, oui, la politique européenne telle qu'elle est menée ces dernières années au motif du taux concurrence est, on peut le dire comme ça, une politique qui attaque les logiques industrielles, qui condamnent les logiques industrielles.
On a évoqué des causes économiques, des causes politiques. Est-ce que, Pascal Pavageot, la faiblesse du dialogue social en France peut aussi contribuer à expliquer cette désindustrialisation par rapport à l'Allemagne, par exemple, où
non,
les syndicats et le patronat arrivent quand même à avoir des causes communes, où en France, c'est beaucoup plus difficile.
Oui, enfin non, là franchement, d'abord, ça n'a strictement rien à voir. La question du dialogue social, entre guillemets, n'est pas spécifique à l'industrie. La question du dialogue social, elle se fait partout, dans l'administration, dans le secteur public, elle se fait dans les services, elle se fait dans l'industrie, etc. On a plutôt, d'ailleurs, de ce point de vue-là, dans les domaines industriels, des négociations collectives de branches qui fonctionnent plutôt bien et qui continuent à fonctionner plutôt très bien, d'ailleurs y compris parce qu'elles sont généralement très anciennes, ces branches, depuis que cette industrie existe. Donc c'est pas dialogue social qui, à un moment donné, serait responsable de la...
Il n'y a jamais de cause unique, mais est-ce que la réussite de l'Allemagne ne s'explique pas aussi, il y a de nombreuses raisons à la réussite de l'Allemagne.
C'est vraiment un modèle. Non, c'est un modèle, effectivement, vous le rappelez, de discussion, de négociation et de dialogue social qui est différent de celui de la France. Mais franchement, il y a aucun lien entre un secteur d'activité qui va croître ou une volonté à un moment donné de politique industrielle d'un côté et la question du dialogue social de l'autre. J'ajoute que, franchement, le dialogue social en France, globalement, reste plutôt pas mauvais. Il suffit de prendre le chiffre qui est qu'aujourd'hui, 93%, c'est le record mondial. On est numéro un mondiaux en termes de couverture de conventions collectives ou de statuts pour l'ensemble des travailleurs. C'est bien la preuve d'un certain dynamisme et d'une certaine avancée en continu en matière de dialogue social. Donc, ce n'est ni la nature du dialogue social, ni sa forme, ni ses acteurs qui sont comme ça responsables de la désindustrialisation française. Là, en l'occurrence, le problème est radicalement différent. Ça ne veut pas dire que dans une branche, bien évidemment, il ne faille pas améliorer un certain nombre de choses. Et là, de ce point de vue-là, ce qui a été mis en place, et notamment à la demande de Force ouvrière à l'époque en 2008, et ce qui a été mis en place depuis 2009 par les deux majorités qui viennent de se succéder à la tête de l'État, donc depuis 2009, à savoir les comités stratégiques de filières industrielles. On a 14 comités stratégiques de filières industrielles aujourd'hui qui existent, qui fonctionnent plutôt bien, qui sont en gros tripartites, hein, les pouvoirs publics, les organisations syndicales et les employeurs, qui ne sont pas des lieux de négociation, qui sont des lieux réellement de dialogue social, c'est-à-dire de concertation. Dans un comité de filière, plusieurs branches sont concernées et une branche peut être concernée par plusieurs comités de filière. Eh bien, ce dynamisme-là, de cette amélioration du dialogue social par la concertation, en plus de la négociation que nous avons dans les branches, est un élément plutôt très positif et très dynamique d'amélioration et de réindustrialisation avec ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les donneurs d'ordre qui seront les deux, trois grands donneurs d'ordre de la filière qui sont obligés de travailler avec plus de force avec les sous-traitants de rang 1, sous-traitants de rang 2, ce qui permet derrière ce dynamisme de concertation et de dialogue social aussi de sécuriser et de renforcer les emplois, y compris des sous-traitants de rang 1, de rang 2 et donc des TPE notamment qui sont en bout de chaîne. Donc vraiment, je pense que le dialogue social, non seulement n'a aucune responsabilité dans la désindustrialisation des 30 dernières années, mais au contraire, je pense que par le dialogue social et notamment les comités stratégiques de filière, on est en train de commencer à relever la tête au niveau français.
Henri Stardenac, un dernier mot sur les causes avant de faire une première pause musicale.
Un dernier mot sur les causes. Bon, y a une cause évidente qui est que la France n'a pas soutenu son industrie, que la France a choisi, enfin d'abord la France a laissé la finance gérer les entreprises industrielles. Donc les entreprises industrielles sont gérées par des financiers, par des hauts fonctionnaires, sont pas gérées par des industriels. la France n'a pas eu le respect de sa classe ouvrière. Les salaires ouvriers sont relativement plus faibles que ce qu'ils sont en Allemagne. On n'a pas de filière d'excellence en matière industrielle.
L'éducation joue un rôle là-dedans.
Il y a l'éducation joue un rôle. Enfin, l'esprit sur lequel effectivement faut tout faire pour pas être ouvrier, faut mieux être financier, commerçant, etc. Ben, c'est tout à fait catastrophique. Donc on n'a pas soutenu suffisamment, on n'a pas eu la préoccupation dans les années récentes à se dire voilà, l'industrie ça fait partie du patrimoine national, il faut des mesures fortes pour le soutenir. Et donc on l'a laissé dépérir, on s'est pas battu pour développer, pour maintenir une industrie en France. On a été coincé par un certain nombre de choses, la financiarisation et puis l'Europe qui a fait que on n'a pas pu faire grand chose pour effectivement avoir une stratégie industrielle à l'échelle du pays. On a laissé faire des directions d'entreprise qui ont souvent été avant tout préoccupées de la rentabilité à court terme et non pas de l'idée de protéger la production et l'emploi en France.
On se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté Noir Désir à l'envers, à l'endroit.
Monsieur Pavageot, Noir Désir nous disait, se fait-on toujours rouler dans la farine? Quels sont les impacts des politiques, donc du coup des politiques industrielles, dont on a parlé dans la première partie, sur l'emploi et les conditions sociales que vous pouvez voir au quotidien lors de votre travail?
C'est pas une question du coup, c'est pareil, uniquement spécifique à l'industrie, mais comment dirais-je, puis c'est pas une politique publique industrielle quelle qu'elle soit qui évidemment va créer de l'emploi dans le secteur privé de façon automatique. Mais on voit par exemple que l'impact d'une politique publique d'austérité telle qu'on la vit aujourd'hui de façon très forte, avec notamment par exemple la baisse des dotations aux collectivités locales ou la baisse des dépenses publiques de l'État dans le cadre des marchés publics, a un impact significatif et très fort sur l'emploi dans un domaine industriel ou dans le domaine du BTP. Donc ça, c'est un effet direct, c'est-à-dire que les carnets de commandes chutent, et dans certains, par exemple, départements ruraux aujourd'hui français, 70% de l'emploi privé est quasiment directement dépendant de la commande publique. Donc lorsque la commande publique chute, comme on est dans une période où la commande privée est extrêmement faible, ça a des conséquences immédiates et dramatiques sur plein d'emplois de l'ensemble des entreprises ou de l'artisanat ou sur d'autres ou le commerce directement. Par contre, c'est plus l'absence, comme on le disait tout à l'heure, de politique publique, de grands projets industriels qui empêchent l'activité de partir ou de repartir. C'est-à-dire que très clairement, les exemples qu'on a cités dans la première partie de l'émission ont créé de l'emploi durable dans les domaines de l'énergie, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, notamment, puisqu'on a cité tout ça tout à l'heure, mais aussi dans d'autres domaines. Et c'est bien à un moment donné une politique publique qui sait donner les moyens avec de la dépense publique, mais de la dépense publique pour créer quoi ? Pour créer des emplois du secteur marchand, des emplois du secteur privé, pour permettre de créer du coup de la croissance et de l'activité, et en plus, dans certains cas, pour permettre de créer des entreprises françaises qui, fort des qualifications et de la compétence de leurs salariés qu'ils ont pu développer grâce à ces politiques publiques françaises sur le sol national, ont pu ensuite exporter ce savoir-faire et parfois aller se vendre à l'international. On a cité par exemple le domaine routier tout à l'heure, mais je pourrais rester sur le domaine énergétique. Donc l'investissement public, l'action publique, la dépense publique par une politique publique de maîtrise d'ouvrage industriel ou de grands projets industriels, elle est généralement extrêmement bénéfique à l'emploi. Et donc en contrepartie, je dirais plutôt, c'est l'absence de politique publique industrielle qui fait que l'activité ne repart pas, a fortiori dans les périodes de crise comme celle que nous vivons maintenant depuis 2008.
Henri Sterdignac, la désindustrialisation, on pourrait se dire tant pis, on va miser sur la tertiarisation. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie du point de vue de l'économie, de l'équilibre de l'économie globale et de l'emploi?
Là, vous posez une question qui a beaucoup d'aspects. D'abord, on a besoin de l'industrie pour exporter. Besoin de l'industrie parce que il faut gagner de quoi payer les matières premières, l'énergie et puis les produits de haute technologie que nous ne fabriquons pas. Et donc on a besoin de l'industrie. D'autre part, si on veut, dans un très grand nombre de domaines, le secteur tertiaire doit s'appuyer sur l'industrie parce que il y a une continuité. L'avenir, c'est la liaison entre la capacité à contrôler la production et puis à partir de là à développer des services de haute valeur ajoutée. Dans les années, il y a une dizaine d'années, il y avait le mythe de l'usine, des entreprises sans usine, c'est-à-dire Fables. L'idée que...
Le fameux faiblesse.
Les idées qu'on allait produire en Chine à bas prix, mais que tout ce qui était un peu de haut niveau, tout ce qui était conception, marketing, on allait garder en Europe, et donc on allait garder en Europe des produits de haute valeur ajoutée, et puis on allait acheter à bas prix le travail des Chinois. Mais l'expérience montre que ça marche pas, c'est-à-dire que petit à petit, les Chinois ou les Indiens, qui sont pas idiots, ils remontent les chaînes de valeur, ils produisent de plus en plus de biens de haute qualité et puis ils se contentent pas du rôle de sous-traitant. Très rapidement, ils supplantent les entreprises européennes qui n'ont plus la capacité de produire. Il faut avoir la capacité de produire pour pouvoir innover. Donc c'est un choix dangereux. Mais plus fondamentalement, la désindustrialisation, ça pose des problèmes importants sur le plan social. C'est que la société se transforme et elle devient... Il y a une disparition de la classe ouvrière qualifiée qui joue un rôle important dans notre société, sur le plan politique, sur le plan social. Donc... les travailleurs hautement qualifiés, les ajusteurs disparaissent et on a une société en entonnoir avec des travailleurs, avec des métiers très qualifiés, très très rémunérateurs et un peu parasitaires d'un côté, et puis de l'autre on a des emplois de service précaires, mal payés. Et donc c'est cette société que nous avons avec la disparition de la classe ouvrière avec qui avait quand même un projet de société. Et donc ça a un impact sur notre cohésion sociale. C'est quand même la classe ouvrière, les salariés qui portaient la protection sociale parce qu'ils en étaient à la fois les gens qui la finançaient et les gens qui en bénéficiaient. Et de plus en plus, évidemment, la disparition de cette classe ouvrière qualifiée met en péril le modèle social français.
Monsieur Pavageau, la question qu'on se pose, c'est qu'il y a un vrai fait que la politique et la volonté à l'heure actuelle, c'est, comme le disait Monsieur Sterdyniak, garder une industrie ultra qualifiée avec des ingénieurs qui délocalisent donc du coup les compétences en Chine. Et du coup, ben on voit bien que ça, naturellement, ça doit causer une fracture sociale, une augmentation du chômage éventuellement, une perte d'identité du monde ouvrier aussi peut-être.
Oui, ben enfin moi on est entièrement d'accord avec ce qu'a dit Henri Sardignac à l'instant. Alors par contre, j'ai un peu le sentiment que ce diagnostic-là que nous craignions dès l'origine et sur lesquels d'ailleurs les organisations syndicales, les syndicats avaient prévenu, y compris sur l'impact sociétal qu'a rappelé Henri Sardignac, allait se produire, mais aussi sur le financement même de la protection sociale, comme il l'a rappelé. Je pense que le politique commence à s'en rendre compte, ainsi que les chefs d'entreprise eux-mêmes. C'est-à-dire que ce mythe de, effectivement, on va garder l'ingénierie, on va garder la recherche, on va garder le marketing, on va garder les quelques services, et encore, il y a beaucoup de services délocalisés, et le reste, on va le délocaliser, conduit par exemple à ce que lorsqu'il faut faire des éoliennes offshore en France, ben on a 12%, il manque 12% de qualification pour que les entreprises françaises puissent répondre à une commande publique de faire des éoliennes en mer du Nord ou en Manche. Parce que effectivement, on manque aujourd'hui de chaudronniers, comme Estaniac l'a dit, on manque de chaudronniers, on manque d'ouvriers qualifiés dans quasiment tous les secteurs, toutes les qualifications, à la fois parce que on continue d'avoir cette espèce d'idée que il vaut mieux être effectivement dans les services ou dans la finance ou je ne sais où plutôt qu'être un ouvrier qualifié, à la fois parce que le niveau des salaires pendant plusieurs années a stagné, ce qui fait qu'effectivement ça donnait pas forcément envie d'y aller, mais aussi parce que on a supprimé des postes. Et donc la transmission de la qualification, la transmission du savoir, mais aussi finalement cette transmission par maîtrise d'ouvrage de formation, on l'a perdu parce qu'on a perdu des emplois, parce qu'on a perdu ce savoir-faire, et qu'à un moment donné, on s'est retrouvé entre les années 80, fin des années 70 et 80, jusqu'à 90, pendant une quinzaine d'années, avec quasiment plus rien. Résultat des courses, aujourd'hui on manque effectivement d'ouvriers qualifiés, et donc il y a une tentative pour l'instant, et c'est plutôt heureux, ces 4-5 dernières années, de revenir sur cette qualification, cette formation, soit continue, soit initiale, de retrouver des personnes qui soient qualifiées en France et qui puissent réinvestir tous ces champs qui sont partis soit du fait de désindustrialisation ou de politique de délocalisation entreprise par entreprise. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'important qu'il faut aider. Et au niveau du dialogue social dont vous parliez tout à l'heure, dans les branches, c'est l'un des éléments, nous, en tous les cas, au niveau des syndicats FO, que nous portons avec force, c'est-à-dire de revenir sur ces éléments fondamentaux. Mais ça passe aussi, au-delà de l'aspect formation, par, à un moment donné, un niveau de salaire et de rémunération qui soit attractif pour permettre que ces filières professionnelles retrouvent des candidats et des candidates pour aller investir des postes qui, en général, sont des postes extrêmement passionnants, prenants, et justement du fait de la spécificité des qualifications très fortes qu'ils entraînent. Et je suis entièrement d'accord pour dire que ça aura des conséquences si on y arrive, et s'il y a la volonté politique de le faire, ça aura aussi des conséquences, inévitablement, à la fois sur la société dans son ensemble et le pacte social et le modèle social français, mais ça aura aussi des conséquences sur les services. Parce que, comme le disait Henri Sterdyniak, dans le domaine des services, on a finalement une paupérisation, une précarité extrêmement forte et extrêmement faible, qui s'est créée aussi parce que le droit ou les niveaux de salaire qui pouvaient exister dans l'industrie étaient en train de disparaître. Et donc, systématiquement, y compris sur un plan social, dans ces conditions-là, souvent, l'industrie tire par le haut, et de façon bénéfique en matière de qualification et en matière de droits sociaux, les nouveaux emplois ou les emplois plus récents que sont ceux, par exemple, des services. Donc on a vraiment tout intérêt pour la société française, pour la protection sociale collective, pour le savoir-faire français, l'export, etc., pour l'économie française dans son ensemble et pour chacun des travailleurs et des individus concernés, à ce que on renoue avec une vraie politique industrielle permettant de la création de compétences, de qualifications de haut niveau dans tous les secteurs industriels.
Henri Stadignac, on évoquait tout à l'heure un peu les conséquences de la désindustrialisation sur le modèle social via notamment la perte d'identité et la perte du monde ouvrier. Est-ce que vous pouvez nous évoquer également les conséquences politiques avec des régions, notamment le Nord et l'Est, où les grandes filières textiles, métallurgie, sidérurgie ont disparu, et les conséquences que ça peut avoir sur le désenchantement politique et sur la réorientation du vote populaire? Question large, mais...
Question large, hein.
Pas expliquer l'évolution du vote populaire par la désindustrialisation, mais
ça a joué, je veux dire. On a des régions qui étaient mono-industrielles, où les industries sont parties, et du coup, ce sont des régions qui ont été petit à petit abandonnées à elles-mêmes, qui sont... sombrer dans la pauvreté, et qui naturellement il y a eu la disparition de l'influence du Parti communiste et des syndicats, et ces régions maintenant sont des régions où effectivement le vote Front National s'est développé de manière massive, ça a des conséquences politiques qui ont découlé assez rapidement. En même temps, on a eu ce qui est très frappant, c'est que on a une ethnocisation des classes sociales aujourd'hui, où il y a certains emplois qui sont réservés, enfin qui se retrouvent attribués à une population précaire, soit des femmes seules, soit des immigrés, etc. Et tout ça tout ça n'est pas bon. C'est-à-dire que ce qui faisait l'unité jadis des salariés disparaît. Il y a une gestion aussi des entreprises qu'ils favorisent. C'est que les entreprises ont une tendance à développer la sous-traitance, et la sous-traitance, ça rompt l'unité des travailleurs dans les entreprises. On a des salariés qui bénéficient toujours de la protection des grandes entreprises. Et puis par ailleurs, on a un certain nombre de professions, les gens qui vont... Les gardiens, les ménages, la sécurité, et puis de plus en plus des emplois temporaires qui sont en dehors de ce contrat social et qui sont remplis par des couches précaires qui ne sont peu en contact avec le syndicalisme et le militantisme politique, et ça affaiblit considérablement le poids politique de la classe populaire. Je veux dire, la classe populaire maintenant n'a plus le poids politique qu'elle pouvait avoir, et naturellement, et ben ça fragilise le modèle social, et ça crée des ruptures qui sont tout à fait tragiques, parce que l'entreprise, le syndicat, le parti politique ne joue plus le rôle d'intégrateur qui jouait il y a une trentaine d'années. Donc on va vers une société extrêmement hétéroclite, divisée, parce que ce qu'on appelle le millefeuille, quoi. On a un millefeuille qui se développe, alors qu'avant, on avait un noyau central qui avait un poids important dans la société. Maintenant, les classes populaires n'ont plus ce poids important. Il suffit de voir la dégringolade du nombre d'ouvriers d'employés même qu'il y a à l'Assemblée nationale ou dans les différentes assemblées élues.
Donc du coup, on voit bien effectivement le rôle de l'industrie dans notre société, que c'est une pierre angulaire qui permet d'investir, de gérer le chômage. Il y a un impact sur le chômage, sur les services, les régions.
Il y a un impact sur les jeunes des classes populaires qui avant pouvaient avoir un projet, de carrière. Qui faisait que ils pouvaient devenir ouvriers hautement qualifiés, ils pouvaient devenir contremaîtres, tandis que maintenant ils ont plus ces perspectives.
Et du coup aussi d'intégration. Nous allons engager une seconde pause musicale avec Oppression de Ben Harper qui nous permettra d'enchaîner après avec les perspectives et alternatives.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic. Ce soir, nous parlons de désindustrialisation. Pascal Pavageau, quelles sont les solutions que vous prenez chez Force Ouvrière pour tenter de réindustrialiser le pays ?
Alors bon, il y a plusieurs choses. Évidemment, branche par branche, secteur industriel par secteur industriel, il y a des revendications spécifiques qui sont portées par nos fédérations et nos syndicats qui sont généralement tournées vers ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la grille de salaire, parce que derrière la grille de salaire, il y a inévitablement l'attractivité des métiers et l'attractivité des postes, qui sont la recherche et l'innovation, parce que ça, c'est absolument fondamental. Et on a, dans certains secteurs, pour des raisons d'économie de bout de chandelle, des réductions en matière d'innovation et de recherche de la part des entreprises, qui du coup est absolument dramatique sur le court terme, sur le court et sur le moyen terme en matière d'investissement, qu'il soit d'ailleurs pour le coup privé ou public, au niveau de la filière ou en tous les cas au niveau de la branche. Donc ça, ces revendications là derrière salaire, nature des emplois naturellement, et puis innovation et recherche, c'est absolument déterminant. L'aspect conditions de travail l'est tout autant, puisque dans le domaine de l'industrie, il y a énormément, il y a en tous les cas beaucoup de postes qu'on peut qualifier de pénibles, ou en tous les cas de difficiles, pas uniquement d'ailleurs liés au travail de nuit, liés à des pauses, liés à des surcharges, etc., ou à des conditions extérieures. Ça aussi, c'est des éléments qu'il est indispensable de traiter et de régler dans le cadre des discussions et des négociations, parce que derrière, il y a bien sûr, devant, il y a d'abord ceux qui sont en poste, mais derrière, il y a aussi l'attractivité, toujours pareil, des métiers et des postes, et puis même le fait que à partir du moment où ça se règle en France ou en Europe, c'est aussi le moyen de le faire imposer sur le plan international pour éviter que ce soit extrêmement dégradé à l'extérieur. Donc toutes ces négociations là sont importantes. Il y a l'aspect qu'il faut pas négliger, dont on a longuement parlé, qui est l'intervention des pouvoirs publics. Et de ce point de vue-là, nous y étions favorables, que le Conseil national de l'industrie et les 14 comités stratégiques de filières industrielles sont une bonne chose, parce qu'ils représentent, de même que les 34 plans industriels, qui représentent finalement une sorte de grand projet industriel, ou en tous les cas de stratégie industrielle, qui permet à nos entreprises de se positionner et de développer et cette recherche, cette innovation et des marchés au niveau national. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Nous avions demandé Force ouvrière, en 2009, nous avions proposé la création d'une banque publique pour l'industrie. C'est l'actuelle BPI, hein, banque publique d'investissement. Là aussi, nous y sommes extrêmement favorables, puisque bah, quelque part, on est un peu à l'origine de l'idée d'avoir une intervention publique qui puisse aider les grands groupes, comme surtout les PME, les TPE ou les entreprises de taille intermédiaire, les sous-traitants, dans des logiques de stratégie de filière. Pour nous, évidemment, ces aides publiques doivent être conditionnalisées, doivent être contractualisées au maintien et à la création d'emplois dans différents domaines, mais que l'intervention publique se fasse dans ce champ-là nous semble être non seulement bénéfique, mais tout à fait indispensable. Dernier point, il y en aurait bien d'autres, mais pour être rapide, dernier point, il ne faut pas négliger dans ces grands champs industriels le poids de la logique de service public, du service public qui est mené à différents niveaux. Moi, je me souviens très bien que l'implantation, par exemple, d'une grosse usine comme Toyota à Valenciennes dans le nord, ce qui a fait que Toyota avait mis finalement 5 zones différentes européennes en concurrence, ce qui a fait que finalement c'est notamment c'est Toyota et c'est le bassin valenciennois qui a été retenu, ça a été le service public de la voie d'eau et le fait que l'État français, mais aussi la région, la ville de Valenciennes, l'agglomération de Valenciennes, ait proposé à Toyota d'avoir un quai public de chargement-déchargement sur l'ESCO, donc sur le canal de l'ESCO, pour permettre d'avoir une grande usine qui puisse en plus développer un transport propre de ses matières premières pour construire et ensuite de transport par bateau des voitures Toyota qui sortent de l'usine. C'est bien une intervention publique, c'est bien un service public, en l'occurrence un quai public sur un canal public qui a finalement rendu le site français plus compétitif que d'autres et non pas la soi-disant question du coût du travail. Donc voilà, cette stratégie industrielle est, publique, elle est indispensable. Le service public, l'innovation, l'emploi, les conditions de travail, c'est les éléments majeurs qui permettront ou qui peuvent permettre de maintenir et de développer des entreprises industrielles partout au niveau du territoire national.
Monsieur Sterzignac, on voit donc l'importance des pouvoirs publics et le rôle qu'ils doivent avoir. Est-ce qu'ils peuvent intervenir sur l'innovation? On a vu des tentatives de mettre en place des pépinières. Est-ce que ce genre d'actions, de terrain sont efficaces ou on peut penser à des actions plus fortes pour favoriser le Made in France, par exemple, une dose de protectionnisme? Où doit se trouver le rôle de l'État dans l'intervention sur la désindustrialisation?
Bon, disons, c'est pas seulement un rôle de l'État, donc c'est un choix social de l'ensemble de la société française. Hein. Il faut ce que nous avons appelé un pacte productif pour l'industrie, c'est-à-dire défendre l'idée que la France doit rester un pays industriel. Il faut orienter l'industrie parce qu'on a un grand défi devant nous qui est la transition écologique, qui est en même temps une chance. Il faut produire avec moins d'utilisation d'énergie, moins d'utilisation de matières premières. En même temps, les pays émergents vont monter en puissance, le coût des transports va augmenter, donc c'est une chance. Il ne faut pas louper cette chance. Il faut effectivement se battre en disant on va développer le Made in France. Il faudrait, comme l'avait suggéré Force ouvrière, avoir un vrai comité de prospective stratégique qui dise clairement, oui, l'industrie chimique a un avenir en France, les jeunes peuvent s'engager dans ce secteur, ils ne seront pas jetés dans 5 ans. Il faut dire clairement que l'automobile a un avenir en France, que ce soit l'automobile électrique et que on peut s'y engager, il faut dire clairement aux jeunes que devenir trader c'est pourri, que effectivement on va prendre des mesures contre la finance et que ils vont pas devenir riches, au contraire ils vont devenir chômeurs s'ils font des études de trader, mais que on a besoin par contre d'ingénieurs et d'ouvriers hautement qualifiés. Il faut d'une façon ou d'une autre subventionner, tricher au maximum pour subventionner notre industrie en finançant en finançant leur recherche, leur infrastructure, parce que on en aura besoin à l'avenir avec, comme je l'ai dit, le renchérissement du coût de l'énergie. On l'a fait. Il y a deux secteurs où on l'a fait, où ça a marché. C'est l'agriculture. Quand même protéger l'agriculture française. Et puis un autre secteur où ça marche pas mal, c'est la culture. Regardez, la France est un des pays du monde à la pointe pour le développement du cinéma. La plupart des films européens sont financés par la France parce qu'on a mis sur pied un système qui permet de financer le cinéma français. Il faut faire pareil pour le secteur industriel. Il faut dire, c'est un choix social de dire le choix social c'est l'industrie, c'est pas la banque. Donc la France par exemple doit se battre pour la taxation des transactions financières pour dire clairement le but des banques c'est pas de la spéculation, c'est de financer l'industrie. Il faut
du coup le rôle de la BPI qui oui. existe, de la FSI qui existe déjà, c'est des systèmes qui
oui je veux dire il y a quand même des choses qui ont été faites mais il faut développer massivement le rôle de la banque publique d'investissement. Il faut lui donner des ressources, il faut dire aux gens faut ouvrir aux gens des livrets où ils pourront donner leur argent et l'argent sera utilisé pour l'industrie française. Il faut se mobiliser sur, sur le projet. Il faut qu'un jeune puisse se dire devenir ingénieur chimiste ou travailleur hautement qualifié, c'est autrement plus valorisant que devenir employé de banque. Et donc il y a de la communication à faire. Actuellement, il y a des gens qui, comme vous le savez, gagnent des 1000 et des 100 parce qu'ils sont assis derrière un ordinateur à spéculer pour savoir si le yen va monter ou
spécule
descendre.
Aussi sur l'industrie d'ailleurs,
qui spécule sur les matières premières. Faut dire, ça c'est de la perte de temps par rapport à ce qu'on a besoin. On a besoin d'innover, mais en même temps faut pas innover n'importe comment, hein. Je veux dire, les innovations où on essaye de persuader les gens qu'il leur faut absolument cette lame pour se raser, non. Je veux dire, il faut des innovations qui s'inscrivent dans la transition écologique il y a un projet industriel à que la France doit porter. Donc je sais que ça peut paraître un peu ridicule d'avoir défendu le Made in France, mais je pense que effectivement c'est un point important, à condition de bien dire les produits français, ça doit être des produits spécifiques, des produits écologiques, des produits de longue durée. Il y a des produits recyclables, des produits qui favorisent l'économie collaborative. Et donc, il faut une alliance entre la préoccupation industrielle et la préoccupation écologique.
De ce point de vue-là, si je peux me permettre, la qualité des emplois, le niveau des salaires, des rémunérations et donc des qualifications qui vont avec, reconnues au bon niveau, permet de la production à un moment donné, bah, effectivement, de qualité, d'un certain niveau. Alors après, estampillé Made in France, si on veut. C'est-à-dire que à un moment donné, et on l'a vu sur beaucoup d'exemples, y compris en termes de réinternationalisation, relocalisation d'activités, parce que c'est bien beau de délocaliser dans des pays à bas coût. Premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, sur le plan de l'énergie, du transport, donc le bilan carbone, c'est extrêmement coûteux. Et ensuite, il y a la question de la qualité du produit. Et à tous les niveaux, et de la perte du savoir-faire. Donc retrouver une vraie politique industrielle qui donne envie aux entreprises de relocaliser ou de créer une activité dans le cadre de droits sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui encore en France, qui soient de bon niveau, avec une négociation collective qui permette d'avoir les salaires qui doivent être ceux de ce genre de prestations, c'est automatiquement, comment dirais-je, payable, enfin c'est intéressant pour l'ensemble de l'économie. Et on continue, on l'a dit en début de l'émission, mais je crois que pour l'histoire de celui qui est derrière son bureau, qui gagnerait des 100 et des 1000 à spéculer sur le travail des autres, à partir du moment où les autres dans l'industrie n'ont plus de travail, lui non plus, il n'en aura pas. On continue d'avoir les services qui sont dépendants, interdépendants du fait qu'on continue d'avoir un outil de production industrielle qui se maintient. Donc renforcer l'industrie, c'est renforcer l'ensemble des emplois en France, l'ensemble des, y compris l'ensemble des services. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de défendre sur un plan évidemment syndical, entreprise par entreprise, branche par branche, mais aussi auprès des pouvoirs publics dans le cadre du Conseil national de l'industrie. Et Henri Sterdyniak a raison de rappeler que ce qui a été mis en place, on est à l'origine de la remise en place d'un comité au plan, ça s'appelle France Stratégie aujourd'hui. France Stratégie n'a pas investi sur ce champ-là de la réindustrialisation française. Au contraire, le rapport France dans 10 ans tend plutôt à dire que c'est pas si grave que ça d'avoir demain une France sans usine pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure.
Et oui, c'est une tragédie. On aurait pu continuer longtemps sur ce sujet.
C'est un projet lancé par EFO mais qui a été trahi.
Pascal Pavageau, on vous remercie. Henri Sterdyniak aussi d'avoir participé à notre émission. Vous pouvez la retrouver sur les sites internet de la Fondation Copernic et de l'émission Mode d'emploi. Prochain volet de l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic fin mars sur l'économie non marchande. On se quitte sur un dernier morceau de HK et Saltimbanque, Les temps modernes.
Merci à tous.
T'as besoin d'oseille, tu cours toujours à court de jus, c'est la surchauffe. Tu perds du poids, tu passes ton tour, faut qu'il dégraisse, faut que tu débauches. Va faire un crédit, c'est TLM. Pour te payer la nouvelle BM. Sors ton costume, faut que tu consommes. Si t'as pas de thune, t'es pas un homme. Faut que t'assures, faut que tu dépenses. Essaie de sauver les apparences. Va faire un crédit Cofidis. Pour payer les Nike à ton fils.